16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces artistes qui ont détruit leurs propres œuvres. Après Marcel Pagnol et Camille Claudel, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une légende vivante du street art, un artiste aussi coté que mystérieux, Banksy.
Vous le dites si bien.
Oui, Stéphane.
J'ai du mal à dire Banksy.
Oui, Stéphane, des artistes qui détruisent leurs œuvres, ça peut arriver pour mille et une raisons. Vous-même, Stéphane, je sais qu'il vous arrive de jeter à la poubelle celle de vos sculptures en pâte à sel que vous jugez indigne d'être montrée au public ou offerte à vos collègues lors du traditionnel pot de fin de saison, un contrôle qualité que vous avez mis en place après l'incident de l'année dernière quand Wendy Bouchard avait cru que vous lui offriez un plug alors qu'il s'agissait simplement d'un astucieux bouchon stop-goutte pour le vin. En outre, la possibilité de détruire son œuvre est une éventualité à laquelle on aimerait que certains artistes réfléchissent, on embrasse Kinvey et Fabien Ottoniente. Banksy, lui, je vous rassure, ne détruit pas systématiquement ses œuvres. Seulement, l'une d'entre elles dont nous allons parler est selon un procédé qui est lui-même une performance artistique. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter Banksy, le street artiste anonyme, le vengeur masqué du pinceau urbain. Nul ne sait qui est Banksy, sauf, j'imagine, sa maman. L'anonymat dont il s'est entouré fait partie intégrante de son œuvre. Tout ce qu'on sait physiquement de lui, on le doit au journal Le Guardian, qui l'a interviewé en 2003 et le décrit ainsi. Blanc, 28 ans, débraillé, décontracté, jean, t-shirt, une dent d'argent, chaîne en argent et boucle d'oreille en argent, il ressemble à un croisement entre Jimmy Nail et Mike Skinner de The Streets. Vu que comme moi vous ne visualisez certainement ni l'un ni l'autre, ça ne fait guère avancer le schmilblick. Évidemment, le journal ne révèle pas qui il est. Ça se trouve, Banksy, c'est un des deux Daft Punk, ce qui ferait de lui un des mecs les plus riches du monde. Brillant, unique, idiosyncratique, j'adore utiliser ce mot, même si vous voyez, j'ai du mal à le prononcer, absolument pas académique, peut-être un peu alcoolique aussi, Banksy est incontournable et indissociable du mouvement street art, un art qui mêle politique, humour noir et satire mordante pour remettre en cause les fondements même de notre société. Il surprend, choque parfois, mais surtout, il nous éduque via la métaphore et l'analogie. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui n'aiment pas le travail de Banksy, Stéphane ?
Pecno.
Non, découvrez-le. Ne soyons pas snobs, Stéphane. Donc, bien qu'à ce jour, Banksy n'a jamais officiellement été identifié, il est possible de retracer une bonne partie de son histoire et de sa carrière. Il serait né en 1974 ou 75 à Bristol, en Angleterre. Je sais que c'est le son que j'avais utilisé pour Manchester sous la pluie, mais croyez-moi, ça marche aussi pour Bristol en 74. Quand il commence à s'adonner au street art, nous sommes à la fin des années 80. Moi, je mange des chocopops devant sa cartoon. David enchante ses camarades en leur faisant
la quéquette à Jacques Chirac.
Banksy, lui, se dit, et si au lieu de faire la quéquette à Chirac, ou son équivalent britannique de l'époque, la touche à Maggie, je me lançais dans une entreprise de sabordage du capitalisme par le prisme de l'art. Oui, Banksy, dès son adolescence, est un gars qui en a dans le ciboulot, plus en tout cas que David et moi. Il signe ses premiers graphes dans le quartier assez craignos de Barton Hill, à Bristol, des graphes qu'il ne signe pas encore Banksy d'ailleurs, mais Robin Banks, un pseudo rigolo en anglais en tout cas, puisque vous avez peut-être le jeu de mots, Robbing Bank.
Voler les banques.
Voler les banques, voilà, bravo. Mais très vite, c'est le pseudonyme de Banksy qui s'impose, plus facile à retenir et plus rapide à écrire sur un mur. Pourquoi la rue d'ailleurs ? Il en parle dans une de ses rares interviews. J'ai commencé à peindre dans la rue parce que c'est le seul endroit qui m'a permis de m'exprimer. De plus, ça permet d'économiser de l'argent sur l'achat d'étoiles. Malin. Banksy commence donc en tant que graffeur avec le crew Bristol Dry Bread Z. Un crew au sein duquel il affine sa technique et en découvre d'autres, y compris celle qui va faire sa renommée mondiale. Je vous le donne en mille, David.
La quéquette
non,
à Jacques Chirac.
Le pochoir, David. Vous n'êtes pas très calé en histoire de l'art. Pourquoi le pochoir ? Eh bien, pour gagner en rapidité et pour échapper au keuf. Un jour, Banksy, a alors 18 ans, est en train de peindre un train avec sa bande d'amis lorsqu'ils sont dénoncés à la police par un riverain.
Navarro, j'écoute.
Oui, c'est Roger Hanon qui est en service ce soir-là. Me demandez pas pourquoi. Les flics débarquent. Tout le monde court dans tous les sens et tente de s'enfuir, sauf Banksy, qui lui reste planqué sous un camion Ben. Il entend les policiers interpeller ses camarades.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Du crack ? Du LSD ? Donnez-moi ça tout de suite, je vais le faire analyser à Montluçon.
Et c'est là qu'il comprend que s'il veut pouvoir réaliser des graphes de qualité rapidement, il doit trouver un moyen d'aller beaucoup plus vite que ça. Ce moyen, c'est d'utiliser des pochoirs qui permettent en outre une plus grande complexité. Tous les graffitis sont un moyen un peu basique de s'exprimer, explique Banksy, mais les pochoirs, ils racontent quelque chose en plus. Ils peuvent être utilisés pour déclencher des révolutions et arrêter les guerres. Alors qu'il commence à devenir célèbre, Banksy, tout révolutionnaire qu'il soit, a quand même la présence d'esprit de prendre un agent puis carrément de créer sa propre structure, Pest Control, en charge de vérifier et de confirmer la paternité de ses œuvres. Gérer son art et son business, quoi. Car c'est un trait commun à beaucoup d'anarchistes, Stéphane. Ils veulent bien que le système capitaliste pète, mais pas avant d'avoir pris un petit pourcentage au passage. Sa première grande fresque murale connue s'appelle The Mild Mild West, jeu de mots. Elle est peinte en 97 et recouvre un panneau de pub pour un ancien cabinet d'avocats à Bristol. Elle représente un ours en peluche lançant un cocktail Molotov à trois policiers anti-émeute. Oui, c'est très rieur. En 99, il débarque à Londres et adopte définitivement l'anonymat. Pourquoi ? Eh bien, d'une part pour échapper aux autorités, la grande majorité de son travail étant considérée comme illégale, mais également parce qu'il réalise que l'anonymat génère un buzz considérable. Banksy devient une star. Ses personnages fétiches aussi, ses singes, ses policiers, ses soldats, ses émeutiers, ses enfants, ses personnes âgées envahissent l'espace public. Il utilise aussi fréquemment les rats. Certains y voient une forme d'autoportrait d'un artiste qui achève ses œuvres illégales, protégé dans l'obscurité. Banksy en parle. Si vous vous sentez sale, insignifiant ou mal aimé, alors les rats sont un bon modèle. Ils existent sans permission, ils n'ont aucun respect pour la hiérarchie de la société et ils ont des relations sexuelles 50 fois par jour.
Ah oui.
Et puis le mot rat n'a-t-il également pas l'anagramme du mot art ? Eh oui, pas mal tout ça. Alors, je sais Stéphane ce que vous dites, ma grand-mère se dit pareil. Dessiner des choses sur les murs de la ville sans autorisation, c'est mal. Eh bien écoutez, l'argument de Banksy, il est assez percutant je trouve. Il dit pratiquer le brandalisme, du vandalisme de marque, en réponse à toute cette publicité dans la rue qui nous est imposée en permanence, sans nous demander notre avis. Ceux qui détruisent vraiment nos quartiers sont les entreprises qui barbouillent les bâtiments et les bus de leurs slogans géants, essayant de nous faire sentir moins que rien et pas à notre place si nous n'achetons pas ce qu'ils ont à nous vendre, dit-il. Ils le font sur toutes les surfaces disponibles et on ne nous autorise pas à leur répondre. Ce sont eux qui ont déclenché la bataille et le mur est une arme de choix pour les frapper en retour. Avouez que c'est convaincant comme argument, Stéphane.
Oui, non, non.
C'est aussi la conclusion à laquelle est arrivée ma grand-mère. Au début des années 2000, Banksy passe du simple pochoir sur un mur à des mises en scène plus complexes, à des pranks, comprenez, des blagues à grande échelle. Leur but, mettre en lumière notre culpabilité commune à gober des messages marketing, politiques ou médiatiques. En 2004, par exemple, il imprime l'équivalent de 1 million de livres sterling de faux billets sur lesquels il remplace le visage de la reine Elisabeth II par celui de la princesse Diana. Il les lance ensuite sur la foule lors du carnaval de Notting Hill. La même année, il se rend au Louvre pour la boutique de souvenirs et les bosquets d'enfants face pour lesquels on peut se faire une petite gâterie après 22h. Non, non, pour la Joconde, Stéphane. Sa mission est assez risquée, accrocher sa propre version de la Joconde dans le musée. Grâce à un déguisement, il réussit à se faufiler et expose sa Mona Lisa à lui, au visage jaune et souriant façon smiley qu'il a appelé tout simplement Mona Lisa Smile. Été 2006, Banksy flash sur Paris Hilton, non pas comme objet de désir, mais comme support parfait pour dénoncer l'absurdité de la télé-réalité. Il achète 500 exemplaires de son album, car oui, on l'avait oublié, mais Paris Hilton avait commis un album, et il les dispose dans les bacs de 48 disquaires, non sans avoir préalablement modifié la pochette, où on voit désormais Paris sortant d'une limousine devant des sans-abri, et les chansons s'intitulent désormais « Pourquoi suis-je célèbre ?»« Qu'est-ce que j'ai fait ?» ou encore « À quoi je sers ?» des CD qui se négocient aujourd'hui aux environs de 860€ sur eBay. Un autre coup de génie de Banksy a été d'habiller une poupée gonflable en prisonnier de Guantanamo et de la placer sur le parcours de l'attraction Le Train et la Mine à Disneyland en Californie. Placer un symbole de la dure réalité dans un lieu où l'on oublie tout, mettant en avant notre facilité à garder les yeux fermés, c'est tout Banksy résumé dans ce prank. Idem quand il investit le zoo de Londres et tag « On en a marre du poisson sur l'enclos des pingouins ». En 2015, Banksy pousse le bouchon plus loin avec 10 Smaland, son parc d'attractions à lui. Son but, créer une expérience familiale qui met en lumière les inégalités de la catastrophe imminente. Un Disneyland dystopien, en somme, où le château fait peur et la calèche de Cendrillon s'est renversée. Trop barré, sans doute, un mois après l'ouverture, c'est déjà la fermeture. Pas de souci, Banksy rebondit à Bethléem. Oui, à Bethléem, j'ai qu'un seul son d'ambiance pour tout le Proche-Orient. Ça s'appelle Mille et une nuits, ça passe, hein, franchement. À Bethléem, Banksy crée le Waldorf Hotel, idéalement situé à proximité immédiate de la barrière de Barbelé qui sépare Israël des territoires palestiniens. Le Waldorf vous propose la pire vue de tous les hôtels du monde. Bon, si vous m'écoutez encore, vous avez de la chance, voici enfin le moment du récit qui a un rapport direct avec le thème de notre émission. En octobre 2018, l'iconique fille au ballon, Girl with Balloon, est mise aux enchères chez Sotheby's. Au moment où le tableau est adjugé à plus d'un million d'euros, Stéphane Bern ayant décidé de faire all-in, pile quand le coup de marteau du commissaire-priseur tombe, une alarme semblant provenir de l'œuvre retentit et la peinture commence alors à s'auto-détruire. Elle glisse de l'intérieur du cadre pour en sortir à moitié en lambeaux comme si on la passait dans un broyeur, ce qui est justement le cas. Go go gadget au broyeur et voilà que toute une salle des ventes pleine à craquer, la bouche bée devant ce happening complètement inattendu. Ça tweet, ça retweet, ça buzz, nouveau coup de génie signé Banksy. Au vu du timing parfait, il se pourrait bien quand même que Sotheby's était dans la combine, ça ne gâche rien, d'autant que la cliente accepte de garder l'œuvre en l'état, l'œuvre qui est rebaptisée « Love is in the bin ». Stéphane, Love in the Bean.
L'amour est à la poubelle.
L'amour est à la poubelle, effectivement, au fil du temps et des pranks, Banksy l'insoumis, Banksy, j'arriverai jamais à le dire, Banksy l'électron libre est donc paradoxalement devenu grand public et très coté pour un ancien système. Il est actif sur Instagram et sinon, c'est qui Banksy, au fait, je sais que c'est ça qui vous intéresse. Sérieusement, c'est qui ? Nombre de rumeurs et de noms circulent. Normalement, il est anglais, ça c'est à peu près sûr. Un des suspects principaux a longtemps été Robert Del Naja, aussi connu sous le street name de 3D et fondateur du groupe Massive Attack. Lui aussi est originaire de Bristol, mais les deux affirment qu'ils sont amis dans la vie et donc qu'ils sont deux personnes différentes. Pour d'autres, Banksy serait une femme. Banksy serait dans la prochaine saison de Masked Singer. Est-ce qu'il serait dans ce studio ? Un type mystérieux, un peu anard, un peu nihiliste, bourré d'humour et qui parle anglais sans accent.
C'est David Castello-Lopez.
Peut-être. Mais alors, pourquoi quelqu'un d'aussi influent et d'accompli dans son art se donnerait-il la peine d'être là avec nous et d'enquêter sur des sujets comme l'origine des pansements et des cacahuètes d'emballage ? Mr. Banksy, please, just for Europe One Radio Station, why do you work with us ?
C'est une couverture, ça se trouve.
Ouais, it's a cover.
It's a cover ?
It's a cover. You know, this little show you have. It's something I like to give to the world.
Oh, thank you, Mr. Banksy. Bon, en vrai, on ne sait pas qui c'est. Enfin, on ne sait pas. Certains, évidemment, savent, à commencer par Stéphane Bern, qui l'a accueilli moult fois dans sa villa de Paros, avant de le déclarer en 2018 persona non grata après qu'il a tagué le Poolhouse.
Ouais, j'aurais adoré parce que ça se vendrait cher.
Vous pourriez vendre le Poolhouse.
Ah bah oui.
Non, Stéphane lui avait administré un soufflet et Banksy ou pas, il était reparti fissa sur EasyJet. Évidemment, vous n'allez pas nous donner son nom, Stéphane, mais peut-être un indice ?
Il avait les dents du bonheur, une bonne soixantaine de tatouages et il chaussait du 38.
Intéressant, le Cluedo continue donc, Stéphane. On ne sait toujours pas qui est ce Banksy.
Non. Il s'appelle Banksy surtout.
Oui, je n'arriverai jamais.
Je pense que 87% des fois, vous l'avez prononcé.
Je suis face à quelque chose de simple. Donc, on dit Banksy.
Banksy, oui.
Bien sûr, parce que c'est son nom, en fait.
Oui.
Et je suis incapable de le dire, ce qui est très, très compliqué. Donc, effectivement.
La prochaine fois, je choisis un autre sujet. Merci, Mathieu. C'est des 99% vrai. Il y a donc 1% de faux.
C'est Banksy.
Gratin, historiquement vôtre.